4. Des contempteurs du corps. C'est aux contempteurs du corps que je veux dire leur fait. Ils ne doivent pas changer de méthode d'enseignement, mais seulement dire adieu à leur propre corps, et ainsi devenir muets. Je suis corps et âme, ainsi parle l'enfant. Et pourquoi ne parlerait-on pas comme les enfants ? Mais celui qui est éveillé et conscient dit « Je suis corps tout entier et rien autre chose. » L'âme n'est qu'un mot pour une parcelle du corps. Le corps est un grand système de raison, une multiplicité avec un seul sens, une guerre et une paix, un troupeau et un berger. Instrument de ton corps, telle est aussi la petite raison que tu appelles esprit, mon frère. Petit instrument et petit jouet de ta grande raison. Tu dis « moi » et tu es fier de ce mot. Mais ce qui est plus grand, c'est ce à quoi tu ne veux pas croire. Ton corps est son grand système de raison. Il ne dit pas « moi », mais « il est moi ». Ce que les sens éprouvent, ce que reconnaît l'esprit n'a jamais de fin en soi. Mais les sens et l'esprit voudraient te convaincre qu'ils sont la fin de toute chose, tellement ils sont vains. Les sens et l'esprit ne sont qu'instruments et jouets. Derrière eux se trouve encore le soi. Le soi, lui aussi, cherche avec les yeux des sens, et il écoute avec les oreilles de l'esprit. Toujours le soi écoute et cherche. Il compare, soumet, conquiert et détruit. Il règne et domine aussi le moi. Derrière tes sentiments et tes pensées, mon frère, se tient un maître plus puissant, un sage inconnu. Il s'appelle soi. Il habite ton corps. Il est ton corps. Il y a plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse. Et qui donc sait pourquoi ton corps a précisément besoin de ta meilleure sagesse? Ton soi rit de ton moi et de ses cabrioles. « Que me sont ces bonds et ces vols de la pensée ? » dit-il. « Un détour vers mon but. Je suis la lisière du moi et le souffleur de ses idées. » Le soi dit au moi « éprouve des douleurs, et le moi souffre et réfléchit à ne plus souffrir, et c'est à cette fin qu'il doit penser. Le soi dit au moi, éprouve des joies, alors le moi se réjouit et songe à se réjouir souvent encore, et c'est à cette fin qu'il doit penser. Je veux dire un mot au contempteur du corps, qu'il méprise. C'est ce qui fait leur estime. Qu'est-ce qui créa l'estime et le mépris et la valeur et la volonté? Le soi créateur créa pour lui-même l'estime et le mépris, la joie et la peine. Le corps créateur créa pour lui-même l'esprit comme une main de sa volonté. Même dans votre folie et dans votre mépris, vous servez votre soi, vous autres contempteurs du corps. Je vous le dis, votre soi lui-même veut mourir et se détourner de la vie. Il n'est plus capable de faire ce qu'il préférerait, créer au-dessus de lui-même. Voilà son désir préféré, voilà toute son ardeur. Mais il est trop tard pour cela. Ainsi, votre soi veut disparaître, ô contempteur du corps. Votre soi veut disparaître. C'est pourquoi vous êtes devenu contempteur du corps, car vous ne pouvez plus créer au-dessus de vous. C'est pourquoi vous en voulez à la vie et à la terre. Une envie inconsciente est dans le regard louche de votre mépris. Je ne marche pas sur votre chemin, contempteur du corps. Vous n'êtes point pour moi des ponts vers le surhumain. Ainsi parlait Zarathoustra. 5. des joies et des passions. Mon frère, quand tu as une vertu, et quand elle est ta vertu, tu ne l'as en commun avec personne. Il est vrai que tu voudrais l'appeler par son nom et la caresser. Tu voudrais la prendre par l'oreille et te divertir avec elle. Et voici, maintenant elle aura en commun avec le peuple le nom que tu lui donnes. Tu es devenu peuple et troupeau avec la vertu. Tu ferais mieux de dire « Ce qui fait le tourment et la douceur de mon âme est inexprimable et sans nom, et c'est aussi ce qui cause la faim de mes entrailles. Que ta vertu soit trop haute pour la familiarité des dénominations, et s'il te faut parler d'elle, n'aie pas honte de balbutier. Parle donc et balbutie « Ceci est mon bien que j'aime. C'est ainsi qu'il me plaît tout à fait. Ce n'est qu'ainsi que je veux le bien. Je ne le veux point tel le commandement d'un Dieu, ni telle une loi et une nécessité humaine, qu'il ne me soit point un indicateur vers des terres supérieures et vers des paradis. C'est une vertu terrestre que j'aime. Il y a en elle peu de sagesse et moins encore de sens commun. Mais cet oiseau s'est construit son nid auprès de moi. C'est pourquoi je l'aime avec tendresse. Maintenant, il couve chez moi ses œufs dorés. C'est ainsi que tu dois balbutier et louer ta vertu. Autrefois, tu avais des passions et tu les appelais des maux. Mais maintenant, tu n'as plus que tes vertus. Elles naquirent de tes passions. Tu apportas dans ces passions ton but le plus élevé. Alors elles devinrent tes vertus et tes joies. Et quand même tu serais de la race des colériques ou des voluptueux, des sectaires ou des vindicatifs, toutes tes passions finiraient par devenir des vertus, tous tes démons des anges. Jadis tu avais dans ta cave des chiens sauvages, mais ils sont devenus des oiseaux et d'aimables chanteurs. C'est avec tes poisons que tu t'es préparé ton baume. Tu attrais la vache affliction. Maintenant tu bois le doux lait de ses mamelles. Et rien de mal ne naît plus de toi, si ce n'est le mal qui naît de la lutte de tes vertus. Mon frère, quand tu as du bonheur, c'est que tu as une vertu et rien autre chose. Tu passes ainsi plus facilement sur le pont. C'est une distinction que d'avoir beaucoup de vertus, mais c'est un sort bien dur. Et il y en a qui sont allés se tuer dans le désert parce qu'ils étaient fatigués de servir de champ de bataille aux vertus. Mon frère, la guerre et les batailles sont-elles des maux? Ce sont des maux nécessaires. L'envie et la méfiance et la calomnie ont une place nécessaire parmi tes vertus. Regarde comme chacune de tes vertus désire ce qu'il y a de plus haut. Elle veut tout ton esprit, afin que ton esprit soit son héros. Elle veut toute ta force dans la colère, la haine et l'amour. Chaque vertu est jalouse de l'autre vertu. Et la jalousie est une chose terrible. Les vertus, elles aussi, peuvent périr par la jalousie. Celui qu'enveloppe la flamme de la jalousie, pareil au scorpion, finit par tourner contre lui-même le dard empoisonné. Hélas, mon frère, ne vis-tu jamais une vertu se calomnier et se détruire elle-même? L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. C'est pourquoi il te faut aimer tes vertus, car tu périras par tes vertus. Ainsi parlait Zarathoustra. 6. Du pâle criminel. Vous ne voulez point tuer, juges et sacrificateurs, avant que la bête n'ait hoché la tête. Voyez, le pâle criminel a hoché la tête. Dans ses yeux parle le grand mépris. Mon moi est quelque chose qui doit être surmonté. Mon moi, c'est mon grand mépris des hommes. Ainsi parlent les yeux du criminel. Ce fut son moment suprême, celui où il s'est jugé lui-même. Ne laissez pas le sublime redescendre dans sa bassesse. Il n'y a pas de salut pour celui qui souffre à ce point de lui-même, si ce n'est la mort rapide. Votre homicide, ô juge, doit se faire par compassion et non par vengeance. Et en tuant, regardez à justifier la vie. Il ne suffit pas de vous réconcilier avec celui que vous tuez. Que votre tristesse soit l'amour du surhumain. Ainsi vous justifierez votre survie. Dites « ennemi » et non pas « scélérat ». Dites « malade » et non pas « gredin ». Dites « insensé » et non pas « pécheur ». Et toi, juge rouge, si tu disais à haute voix ce que tu as déjà fait en pensée, chacun s'écrierait « ôtez cette immondice et ce venin ». Mais autre chose est la pensée, autre chose l'action, autre chose l'image de l'action. La roue de la causalité ne roule pas entre ces choses. C'est une image qui fit pâlir cet homme pâle. Il était à la hauteur de son acte lorsqu'il commit son acte, mais il ne supporta pas son image après l'avoir accompli. Il se vit toujours comme l'auteur d'un seul acte. J'appelle cela de la folie, car l'exception n'est devenue la règle de son être. La ligne fascine la poule. Le trait que le criminel a porté fascine sa pauvre raison. C'est la folie après l'acte. Écoutez, juge, il y a encore une autre folie. Et cette folie est avant l'acte. Hélas, vous n'avez pas pénétré assez profondément dans cette âme. Ainsi parle le juge rouge. Pourquoi ce criminel a-t-il tué ? Il voulait dérober. Mais je vous dis, son âme voulait du sang et ne désirait point le vol. Il avait soif du bonheur du couteau. Mais sa pauvre raison ne comprit point cette folie, et c'est elle qui décida le criminel. « Qu'importe le sang, dit-elle, ne veux-tu pas profiter de ton crime pour voler, pour te venger ?» Et il écouta sa pauvre raison. Son discours pesait sur lui comme du plomb. Alors il vola après avoir assassiné. Il ne voulait pas avoir honte de sa folie. Et de nouveau le plomb de sa faute pèse sur lui. De nouveau sa pauvre raison est si engourdie, si paralysée, si lourde. Si du moins il pouvait secouer la tête, son fardeau roulerait en bas. Mais qui secouera cette tête? Qu'est cet homme? Un monceau de maladies qui, par l'esprit, agissent sur le monde extérieur. C'est là qu'elles veulent leur butin. Qu'est cet homme? Une grappe de serpents sauvages entrelacés qui rarement se supportent tranquillement. Alors ils s'en vont chacun de son côté chercher leur butin de par le monde. Voyez ce pauvre corps, ses souffrances et ses désirs. Sa pauvre âme essaya de les comprendre. Elle crut qu'ils étaient le plaisir et l'envie criminelle d'atteindre le bonheur du couteau. Celui qui tombe malade maintenant est surpris par le mal qui est le mal de ce moment. Il veut faire souffrir avec ce qui le fait souffrir. Mais il y a eu d'autres temps. Il y a eu un autre bien et un autre mal. Autrefois, le doute et l'ambition personnelle étaient des crimes. Alors, le malade devenait hérétique et sorcière. Comme hérétique et sorcière, il souffrait et voulait faire souffrir. Mais vous ne voulez pas m'entendre. Ce serait nuisible pour ceux d'entre vous qui sont bons, dites-vous. Mais que m'importent vos hommes bons? Chez vos hommes bons, il y a bien des choses qui me dégoûtent, et ce n'est vraiment pas leur mal. Je voudrais qu'ils aient une folie dont ils périssent, comme ce pâle criminel. Vraiment, je voudrais que cette folie s'appelât vérité, ou fidélité, ou justice. Mais leur vertu consiste à vivre longtemps dans un misérable contentement de soi. Je suis un garde-fou au bord du fleuve. Que celui qui peut me saisir me saisisse. Je ne suis pas votre béquille. Ainsi parlait Zarathoustra. 7. Lire et écrire. De tout ce qui est écrit, je n'aime que ce qui est écrit avec son propre sang. Écris avec du sang et tu apprendras que le sang est esprit. Il n'est pas facile de comprendre du sang d'étranger. Je hais tous les paresseux qui lisent. Celui qui connaît le lecteur ne fait plus rien pour le lecteur. Encore un siècle de lecteurs et l'esprit même sentira mauvais. Que chacun ait le droit d'apprendre à lire, cela gâte à la longue non seulement l'écriture, mais encore la pensée. Jadis, l'esprit était Dieu, puis il devint homme. Maintenant, il s'est fait populace. Celui qui écrit en maxime avec du sang ne veut pas être lu, mais appris par cœur. Sur les hautes montagnes, le plus court chemin va d'un sommet à l'autre. Mais pour suivre ce chemin, il faut que tu aies de longues jambes. Les maximes doivent être des sommets, et ceux à qui l'on parle des hommes, grands et robustes. L'air léger et pur, le danger proche et l'esprit plein d'une joyeuse méchanceté, tout cela s'accorde bien. Je veux avoir autour de moi des lutins, car je suis courageux. Le courage qui chasse les fantômes se crée ses propres lutins. Le courage veut rire. Je ne suis plus en communion d'âme avec vous. Cette nuée que je vois au-dessous de moi, cette noirceur et cette lourdeur dont je ris, c'est votre nuée d'orage. Vous regardez en haut quand vous aspirez à l'élévation, et moi je regarde en bas puisque je suis élevé. Qui de vous peut en même temps rire et être élevé? Celui qui plane sur les plus hautes montagnes se rit de toutes les tragédies de la scène et de la vie. Courageux, insoucieux, moqueur, violent, ainsi nous veut la sagesse. Elle est femme et ne peut aimer qu'un guerrier. Vous me dites, la vie est dure à porter. Mais pourquoi auriez-vous le matin votre fierté et le soir votre soumission? La vie est dure à porter, mais n'ayez donc pas l'air si tendre. Nous sommes tous des ânes et des ânesses chargés de fardeaux. Qu'avons-nous donc de commun avec le bouton de rose qui tremble, puisqu'une goutte de rosée l'oppresse? Il est vrai que nous aimons la vie, mais ce n'est pas parce que nous sommes habitués à la vie, mais à l'amour. Il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a toujours un peu de raison dans la folie. Et pour moi aussi, pour moi qui suis porté vers la vie, les papillons et les bulles de savon, et tout ce qui leur ressemble parmi les hommes, me semble le mieux connaître le bonheur. C'est lorsqu'il voit voltiger ces petites âmes légères et folles, charmantes et mouvantes, que Zarathoustra est tenté de pleurer et de chanter. Je ne pourrais croire qu'à un dieu qui saurait danser. Et lorsque je vis mon démon, je le trouvais sérieux, grave, profond et solennel. C'était l'esprit de lourdeur. C'est par lui que tombe toute chose. Ce n'est pas par la colère, mais par le rire que l'on tue. En avant, tuons l'esprit de lourdeur. J'ai appris à marcher. Depuis lors, je me laisse courir. J'ai appris à voler. Depuis lors, je ne veux pas être poussé pour changer de place. Maintenant je suis léger, maintenant je vole. Maintenant je me vois au-dessous de moi. Maintenant un dieu danse en moi. Ainsi parlait Zarathoustra. 8. De l'arbre sur la montagne. Zarathoustra s'était aperçu qu'un jeune homme lévitait. Et comme il allait un soir seul par la montagne qui domine la ville appelée la Vache Multicolore, voilà qu'il trouva dans sa promenade ce jeune homme, appuyé contre un arbre et jetant sur la vallée un regard fatigué. Zarathoustra mit son bras autour de l'arbre contre lequel le jeune homme était assis et il parla ainsi. Si je vous laisse secouer cet arbre avec mes mains, je ne le pourrai pas. Mais le vent que nous ne voyons pas l'agite et le courbe comme il veut. De même, nous sommes courbés et agités par des mains invisibles. Alors le jeune homme se leva stupéfait et il dit « J'entends Zarathoustra et justement je pensais à lui. » Zarathoustra répondit « Pourquoi t'effraies-tu ? Il en est de l'homme comme de l'arbre. Plus il veut s'élever vers les hauteurs et la clarté, plus profondément aussi ses racines s'enfoncent dans la terre, dans les ténèbres et l'abîme, dans le mal. « Oui, dans le mal !» s'écria le jeune homme. « Comment est-il possible que tu aies découvert mon âme ?» Zarathoustra se prit à sourire et dit « Il y a des âmes qu'on ne découvrira jamais, à moins que l'on ne commence par les inventer. »« Oui, dans le mal !» s'écria de rechève le jeune homme. « Tu disais la vérité, Zarathoustra. Je n'ai plus confiance en moi-même depuis que je veux monter dans les hauteurs. Et personne n'a plus confiance en moi. D'où cela peut-il donc venir ? Je me transforme trop vite. Mon présent réfute mon passé. Je saute souvent les marches quand je monte. C'est ce que les marches ne me pardonnent pas. Quand je suis en haut, je me trouve toujours seul. Personne ne me parle. Le froid de la solitude me fait trembler. Qu'est-ce que je veux donc dans les hauteurs ? Mon mépris et mon désir grandissent ensemble. Plus je m'élève, plus je méprise celui qui s'élève. Que veut-il donc dans les hauteurs ? Comme j'ai honte de ma montée et de mes faux pas. Comme je ris de mon souffle haletant. Comme je hais celui qui prend son vol. Comme je suis fatigué lorsque je suis dans les hauteurs. » Alors le jeune homme se tut. Et Zarathoustra regarda l'arbre près duquel ils étaient debout, et il parla ainsi. « Cet arbre s'élève seul sur la montagne. Il a grandi bien au-dessus des hommes et des bêtes. Et s'il voulait parler, personne ne pourrait le comprendre, tant il a grandi. Dès lors, il attend, et il ne cesse d'attendre. Quoi donc ? Il habite trop près du siège des nuages. Il attend peut-être le premier coup de foudre. » Quand Zarathoustra eut dit cela, le jeune homme s'écria avec des gestes véhéments : « Oui, Zarathoustra, tu dis la vérité. J'ai désiré ma chute en voulant atteindre les hauteurs, et tu es le coup de foudre que j'attendais. Regarde-moi, que suis-je encore depuis que tu nous es apparu ? C'est la jalousie qui m'a tué. » Ainsi parlait le jeune homme, et il pleurait amèrement. Zarathoustra, cependant, mit son bras autour de sa taille et la mena avec lui. Et lorsqu'ils eurent marché côte à côte pendant quelques minutes, Zarathoustra commença à parler ainsi. « J'en ai le cœur déchiré. Mieux que ne le disent tes paroles, ton regard me dit tout le danger que tu cours. Tu n'es pas libre encore. Tu cherches encore la liberté. Tes recherches t'ont rendu noctambule et trop lucide. Tu veux monter librement vers les hauteurs et ton âme a soif d'étoiles. » Mais tes mauvais instincts, eux aussi, ont soif de la liberté. Tes chiens sauvages veulent être libres. Ils aboient de joie dans leur cave quand ton esprit tend à ouvrir toutes les prisons. Pour moi, tu es encore un prisonnier qui aspire à la liberté. Hélas, l'âme de pareil prisonnier devient prudente. Mais elle devient aussi rusée et mauvaise. Pour celui qui a délivré son esprit, il reste encore à se purifier. Il demeure en lui beaucoup de contraintes et de bourbes. Il faut que son œil se purifie. Oui, je connais le danger que tu cours. Mais par mon amour et mon espoir, je t'en conjure, ne jette pas loin de toi ton amour et ton espoir. Tu te sens encore noble, et les autres aussi te tiennent pour noble, ceux qui t'en veulent et qui te regardent d'un mauvais œil. Sache qu'ils ont tous quelqu'un de noble dans leur chemin. Les bons, eux aussi, ont tous quelqu'un de noble dans leur chemin. Et quand même ils l'appelleraient bon, ce ne serait que pour le mettre de côté. L'homme noble veut créer quelque chose de neuf et une nouvelle vertu. L'homme bon désire les choses vieilles et que les choses vieilles soient conservées. Mais le danger de l'homme noble n'est pas qu'il devienne bon, mais insolent, railleur et destructeur. Hélas, j'ai connu des hommes nobles qui perdirent leur plus haut espoir, et dès lors ils calomnièrent tous les hauts espoirs. Dès lors ils vécurent effrontés en de courts désirs, et à peine se sont-ils tracés un but d'un jour à l'autre. L'esprit aussi est une volupté, ainsi disait-il. Alors leur esprit s'est brisé les ailes. Maintenant il ne fait plus que ramper et il souille tout ce qu'il dévore. Jadis ils songeaient à devenir des héros. Maintenant ils ne sont plus que des jouisseurs. L'image du héros leur cause de l'affliction et de l'effroi. Mais par mon amour et par mon espoir, je t'en conjure. Ne jette pas loin de toi le héros qui est dans ton âme. Sanctifie ton plus haut espoir. Ainsi parlait Zarathoustra.